Échange.
Délimitation.
Coopération.
Séparation.
Espace neutre.
Espace sécurisé.
Qu'elle soit marquée, poreuse ou ouverte.
On vous explique tout sur les frontières.
Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Cham. Aujourd'hui, nous étudierons les frontières de nos paysages sous tous leurs visages.
Dans un premier temps, embarquons avec Lilou, Jules, Dimitri, Gaspard, Emma et Emma qui vont nous faire découvrir des frontières moins terre à terre à travers le biais d'humeur de cette émission.
L'avis de nos chroniqueurs,
c'est maintenant sur le biais d'humeur.
Les frontières, décrites par le sociologue Georges Simmel dans son ouvrage « Études sur les formes de socialisation », sont montrées d'une manière peu habituelle.
Effectivement, Georges Simmel explique que les frontières psychologiques n'agissent pas tout le temps sur les autres. Elles ne sont pas toujours des lieux terrestres, mais ces dernières sont définies par les hommes entre eux.
Cette analyse me fait penser que dans ma vie de lycéen de tous les jours, je suis peu confronté à des frontières terrestres, mais plutôt à des frontières sociales, comme des groupes de pairs que je peux résumer par tout ce qui se ressemble, ça semble.
Je suis d'accord avec toi. Au lycée, on voit des différences entre les classes sociales. Malgré les efforts de l'enseignement pour les faire disparaître, des différences restent visibles, comme par exemple la réussite de chacun.
Contrairement à toi, je pense que le lycée est un lieu d'égalité entre les élèves. Comme on peut le voir, ils ont le même âge, ils étudient tous ensemble avec des centres d'intérêt en commun, ce qui peut montrer que les frontières n'ont pas leur place dans l'enseignement.
On retrouve donc différentes frontières, sociales, psychologiques et matérielles. Ces frontières matérielles, telles que celles d'un pays, relèvent des frontières sociales, comme l'a dit Georges Simmel. La configuration de l'espace que nous qualifions de frontière est une fonction sociologique. À l'écoute de nos journalistes, on se rend compte que ce sujet fait débat. Est-ce que d'autres personnes partagent notre avis ?
Place au micro-trottoir.
Revenons à présent sur nos deux pieds pour explorer des frontières bien terrestres cette fois avec les micro-trottoirs.
En effet, Mélina, Sienna, Baptiste, Benoît, Noam et Mathias sont partis à l'assaut des couloirs du lycée pour poser aux élèves et aux adultes une question simple en apparence. Existe-t-il encore des frontières aujourd'hui ?
Merci Lily et Mayanne. En effet, voici les réponses que nous avons pu obtenir en interrogeant des personnes du lycée.
On peut observer que certaines personnes sont beaucoup moins informées sur le sujet et n'ont pas de grandes connaissances.
Pas vraiment, non.
On remarque que des personnes sont assez bien informées sur la question et ont des réponses plus développées.
Moi je trouve pas vraiment parce que ça dépend des pays. Par exemple, les pays dans l'Europe, il n'y en a plus vraiment à l'heure d'aujourd'hui. Mais tandis que des pays, en Afrique par exemple... Il y en a encore beaucoup.
Oui, je pense qu'il y a encore des frontières morales et des frontières physiques.
Bah oui, je pense qu'il existe indéniablement des frontières, puisque déjà on peut le voir avec le problème en Ukraine, la guerre actuellement. On sait que la Russie essaye de redéfinir ses frontières en essayant d'acquérir de nouveaux territoires. Donc je pense qu'on ne peut qu'affirmer que les frontières existent réellement dans notre monde.
Oui, je pense que les frontières existent encore dans le monde.
Oui, alors pour moi, il existe encore des frontières, notamment proches de nous, les frontières européennes, mais qui ont connu des modifications dans les accès entre pays et dans la circulation mondiale.
Il me semble qu'il est perdure des frontières à la fois culturelles, géographiques, physiques, mentales. Et justement, notre travail est aussi de sociabiliser tout le monde ensemble et d'atténuer ces différences à la fois culturelles et pour le mieux vivre ensemble.
Il y a de plus en plus de frontières aujourd'hui, mais vous l'entendez au sens géopolitique ou au sens frontières sociales, frontières culturelles ?
Et du coup, c'était la question, on peut le voir dans tous les sens, et donc chaque personne avait un avis différent.
Oui, parce qu'il y a énormément de frontières, et que les gens ne se sentent pas concernés de la même manière. Les frontières culturelles, en Belgique par exemple, ça, c'est un bon cas entre les Flamands et les Wallons, il y a des frontières explosées. Actuellement, me semble-t-il, qu'il y a des choses du côté de la Russie et de l'Ukraine, il y a des frontières qui ont bougé au cours du temps. Il y a des frontières qui bougent encore actuellement. Il y a des frontières qui se multiplient. Le cas de l'ex-Yougoslavie, je pourrais multiplier comme ça à l'infini.
Oui, il y a encore des frontières, mais avec les accords qu'il y a eu mis sur la table en Europe, les frontières sont moins existantes, même s'il reste les pays, etc. etc.
Oui, donc je pense effectivement qu'il y a encore des frontières, puisque lorsque les personnes veulent voyager, notamment lorsqu'elles veulent se rendre en Angleterre, il y a encore la nécessité d'avoir un passeport. Donc on peut considérer à partir de ce moment-là qu'il y a forcément des frontières.
Alors je pense que oui, au regard de la situation internationale aujourd'hui, il suffit de prendre le conflit ukrainien pour voir qu'on a deux États qui s'opposent et les autres multiples exemples de frontières très marquées à travers le monde où les murs se multiplient, où on sent que les migrations sont peut-être limitées.
Ben, vous pouvez donner quel exemple de frontière, comme vous venez de dire ?
Je pense notamment, bien sûr, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où sous la présidence de Donald Trump, on a vu cette volonté, encore une fois, d'ériger un mur pour stopper les flux migratoires provenant d'Amérique latine. Mais on peut aussi prendre un exemple beaucoup plus récent, à savoir la pandémie de Covid-19 qui a vu des frontières réapparaître.
Et donc, est-ce que vous pensez que l'espace Schengen, elle, c'est une frontière ou c'en est pas une ?
L'espace Schengen a vocation à effacer les frontières, mais on voit les exemples récents depuis 2020 que la volonté des États va au-delà de la volonté de l'Union européenne et c'est fort dommage.
À part l'espace Schengen où il n'y a pas vraiment de frontières, mais il n'y a plus de douane, en tout cas quand tu traverses la France et l'Espagne, en tout cas tu vois les bureaux de douane, mais je trouve que c'est plus symbolique qu'autre chose les frontières aujourd'hui, à part peut-être dans les pays où il y a des migrations très fortes comme aux États-Unis où ils ont construit le mur qui aujourd'hui n'est plus, hein, parce que Biden est au pouvoir, mais c'est vrai que les frontières, elles sont symboliques pour certains et d'autres non.
Oui, je pense qu'il y a des frontières. Donc, notamment pour les échanges commerciaux, vu qu'il y a des règles avec les États-Unis, par exemple, ou avec, d'autres pays comme la Chine, où les règles commerciales font que les échanges ne se font pas de façon gratuite. Donc, il y a des frontières.
Effectivement, oui, sans aucun doute. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que ce sont des frontières réelles, des frontières virtuelles ? Et puis on pourrait se poser la question, est-ce qu'elles sont nécessaires ? Est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises ? Est-ce que c'est bon ou mauvais qu'il y en ait ? Parce que de tout temps, je pense que les frontières sont des zones de conflit, déjà. Donc est-ce qu'il y a aussi ce même phénomène sur les frontières virtuelles ? Voilà, c'est un sujet très vaste, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais voilà ma première réponse.
Oui, alors pour moi, la frontière ou les frontières n'existent plus en fait. Je vais souvent en Allemagne et il n'y a rien qui va séparer l'Allemagne de la France. On circule librement. La seule différence, quoi, ce sera la langue.
C'est différent un peu partout dans le monde. Par exemple, en Amérique, avec la frontière du Mexique. Et en France, par exemple, on voit moins de frontières.
Pour conclure, nous avons donc vu que les résultats ont été très nuancés suivant les personnes interrogées, que ce soit avec des réponses plus ou moins développées, avec l'avis d'ados ou d'adultes.
En effet, ce micro-trottoir nous a permis de voir que cette question pouvait poser des débats ou alors totalement désintéresser certaines personnes.
Qui, quand, quoi, comment, pourquoi ? Interrogeons une personnalité.
Après avoir entendu ces réponses, écoutons la parole d'un expert en frontières, puisque Luna, Ethan et Armand ont eu l'immense honneur d'interroger Frédéric Ancel.
Donc nous vous remercions d'abord d'avoir bien accepté d'être venu ici, donc dans cet endroit délocalisé, à la Maison des sciences de l'homme de Clermont-Ferrand.
Mais d'abord, écoutons Zoé, Léonie et Marlène qui vous expliquent qui est Frédéric Ancel.
Frédéric Ancel est un géopolitologue né à Paris le 4 avril 1969. Il est membre de plusieurs instituts et est également professeur de relations internationales et de sciences politiques ainsi que maître de conférences à Sciences Po. Ses travaux et publications portent notamment sur les questions stratégiques ainsi que les relations internationales du Moyen-Orient en particulier.
Il a rédigé plusieurs ouvrages au cours de sa carrière, dont plusieurs atlas.
Du coup, il y a Luna, Ethan et moi-même, donc c'est nous qui allons vous poser les différentes questions tout au long de l'interview. Donc on avait une petite question, c'était qui nous intrigue quand même, c'était de savoir s'il y avait un événement en particulier qui a fait que vous vous êtes intéressé au domaine de la géopolitique.
Il y a, alors je vais peut-être vous décevoir, depuis que je suis tout petit, je joue au petit soldat. C'est un peu misérable. C'est-à-dire que dans ma famille, pas davantage que parmi mes amis d'école à l'époque ou de quartier, il n'y avait de militaires ou de policiers ou de gens qui avaient même participé à des guerres. J'en ai même pas réellement connu fondamentalement. Et j'ai toujours été passionné par les cartes. Alors ça oui, donc par l'histoire finalement, mais l'histoire plutôt militaire et stratégique, par la géographie. Et donc j'en ai fait finalement mon métier.
Par ailleurs, pourquoi vous êtes-vous davantage recentré sur les frontières du Moyen-Orient ?
C'est aussi une très bonne question. Là, en revanche, alors quand j'étais petit, je ne voulais pas me coucher tôt le soir. Alors, je prenais pour prétexte, c'est un prétexte extrêmement sérieux, de vouloir regarder les informations au journal de 20h. les années 70, c'est la télé de masse, enfin le début, en noir et blanc bien sûr, et de chaîne et demie. Ça m'intéressait un peu, mais surtout j'avais pas envie d'aller me coucher. Et en réalité, là pour le coup, et pour revenir, pour te répondre et pour revenir à la question de ton camarade, je me souviens parfaitement d'images de guerre, donc ça m'intéressait. Mais j'avais 4-5 ans, 5-6 ans, c'était la guerre du Kippour, dite aussi guerre d'octobre. On est en 73, hein. Et les images étaient fortes. Vous voyez des chars calcinés, des soldats bon, dans le désert, etc. Et par la suite, puisque nous sommes donc dans les années 70, eh bien, la plupart des images de conflits que je vois à la télévision concernent le Proche-Orient. Par exemple, la guerre du Liban. La grande guerre civile, elle commence en avril 75. Et alors, c'est du continu jusqu'en 90. Hein. Donc là, j'ai pu m'en repaître. Là, j'en avais tous les soirs à la télé. Hein. J'ai commencé à écouter la radio, mais plus tard. Donc en réalité, ma seule source d'information à l'époque, étant enfant, c'était, évidemment, Internet n'existe pas, c'était ce fameux journal de 20 heures que mes parents regardaient. Et bien moi, j'étais abreuvé d'images proche-orientales. Et je me souviens de quelque chose de plus sympathique. C'est en 78, j'ai 9 ans. Ce sont les accords de paix de Camp David. Et là, c'est une image extrêmement spectaculaire, poignante, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a trois poignées, une triple poignée de main. En fait, c'est l'Américain Jimmy Carter, l'Égyptien Anwar el-Sadat et l'Israélien Menachem Begin qui signent la paix. Et ça m'a marqué. Ça, pour le coup, je peux dire que ça m'a marqué. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Nos camarades ont effectué un micro-trottoir où ils ont demandé à des gens dans la rue si, d'après eux, il existe encore des frontières de nos jours. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une bonne idée d'avoir posé la question. Ça nous dit quelque chose de la manière dont, en Europe et en France en particulier, et chez les jeunes notamment, on voit encore la frontière. Non seulement il y a des frontières, mais il n'y en a vraisemblablement jamais eu autant. Alors d'abord, il n'y a jamais eu autant d'États. Enfin, d'État-nation. Il y en a 193. Hein. En 1945, lorsque l'ONU se constitue à San Francisco, il y a 50 États souverains. Hein, donc 193, plus une quinzaine autoproclamés, non reconnus, mal reconnus, bon, observateurs, bref. Bon. Donc ça fait plus de 200. C'est beaucoup. Ça, ce sont pour les frontières, c'est pour les frontières des États. Maintenant, il y a des frontières sociales qu'il ne faut pas oublier, qui correspondent à des... Alors, des limitations qui ne sont pas nécessairement marquées au sol, qui n'ont bien sûr rien d'officiel, mais qui séparent parfois violemment des populations. Donc, ce sont des frontières psychologiques, hein, ça pour l'essentiel, ça c'est sûr. Des frontières, donc, je le répète, sociales, au sens où derrière telle ou telle, ou en amont de telle ou telle rue, de telle ou telle colline, de tel ou tel immeuble, ben, les gens vivent de manière nettement plus aisée ou nettement plus pauvre que de l'autre côté de la rue. Bon. Et alors là, à ma grande, il y en a des milliers ou des dizaines de milliers sur la planète. Je dirais des milliers pour faire peu sobre, mais en réalité, on peut en compter... on peut en compter en réalité beaucoup plus. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu autant de frontières, car il n'y a jamais eu autant d'États-nations, car il n'y a jamais eu autant d'humains sur cette Terre, ça c'est une évidence, c'est un truisme. Et je pense que la frontière... est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, je ne sais pas, mais je crains qu'elle soit de plus en plus rigide, de plus en plus brutale et de plus en plus sociale.
Toutes ces années de travail sur les frontières, y en a-t-il une qui vous a le plus marqué qu'une autre ?
J'ai même écrit un ouvrage dessus, c'est le plateau du Golan. Plateau stratégique du Golan entre la Syrie et Israël. Alors aujourd'hui, on en parle davantage du Golan, notamment avec ce qui s'est produit pendant 10 ans, donc une guerre civile et une guerre tout court en Syrie terrible qui a fait un demi-million de morts en 7-8 ans, sur une zone plus petite que l'ancienne Auvergne. Hein. Donc c'est une petite région. Alors cette frontière, elle est très passionnante. Pourquoi ? Parce que c'est une frontière monde. C'est une frontière, je n'aime pas le mot, je vais l'employer quand même, c'est une frontière civilisationnelle. C'est-à-dire que d'un côté, du côté occidental, ouest de la frontière, vous avez Israël, du côté oriental, donc est, vous avez la Syrie, et entre ces deux espaces... Il y a un nombre de différences extraordinaires sur le plan institutionnel, culturel, linguistique, religieux, juridique, je crois que je ne l'ai pas dit, militaire bien évidemment. Je ne crois pas, je n'ai pas connaissance, mais en tout cas c'est l'une des frontières, sinon la frontière au monde qui me semble séparer des mondes extrêmement différent. Je dois dire que lorsqu'on est dessus, c'est tout petit territoire, c'est 1000 km² le plateau du Golan, c'est tout petit, et lorsqu'on est sur le plateau du Golan, en particulier sur le mont Hermon, ou le mont Hermon, on est à 2000-2200 mètres d'altitude, Quand on regarde vers l'ouest, c'est la basse plaine de Galilée avec le doigt de la Galilée. On descend rapidement à moins 200 mètres. C'est l'extrême pointe septentrionale du Rift pour les géographes. Et commence au Kenya. Et lorsqu'on regarde à l'est, on voit les faubourgs de Damas et la plaine du Oran. J'ajoute, cerise sur le gâteau, que c'est un territoire biblique. Alors là, et sur lequel on retrouve beaucoup de vestiges à la fois. Alors biblique, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, historique, ça c'est sûr, médiévaux, bien évidemment. Et enfin, c'est le chocolat dans la cerise sur le gâteau. En 1973, la guerre du Kippour. Les images dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sur ce plateau qu'elles ont été les plus dures. Pourquoi ? Parce que depuis Koursk en 1943, c'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Et vous avez sur place d'ailleurs des vestiges très, très importants. Voilà, il y a beaucoup de frontières qui m'ont intéressé. Le Golan est une frontière absolue.
Aujourd'hui, vous êtes prêté au jeu pour cette interview. Vous avez votre propre émission de radio sur France Inter. Mais d'après vous, qu'apporte un support audio par rapport à un support écrit ?
J'avais il y a longtemps une chronique géopolitique, effectivement, et j'interviens encore souvent à la radio, donc tu as tout à fait raison de le préciser. Moi, j'aime bien ce médium, j'aime bien la radio. Pourquoi ? Parce que l'image ne pollue pas. Il n'y a pas d'image. Je veux dire qu'elle prend de l'énergie, elle prend des espaces de cerveau disponibles pour en fait pas grand-chose. Quand on regarde un reportage à la télévision, ça peut être un reportage tout à fait passionnant et intéressant. Mais il faut bien, par définition, meubler, combler l'image. Ça, c'est absolument certain, par définition, la vocation de ce médium. Alors, si par exemple, vous avez une enquête policière en cours et que le reportage veut traduire l'importance de cette enquête, vous allez voir un fourgon de police, vous allez voir un policier, bon, de dos, vous allez voir l'enseigne d'un commissariat. Vous allez voir peut-être une scène de crime, mais bien évidemment, il n'y aura plus de corps. Bon, bref, vous ne voyez rien. Pas intéressant. À la radio, chaque mot compte. Il n'y a que ça. Donc là, le poids de chaque mot, me semble-t-il, à la radio, est plus important. On investit davantage de responsabilité dans un mot, une phrase, une pensée, à la radio qu'à la télévision, parce qu'il n'y a pas. Justement parce qu'il n'y a pas d'image. Je ne dis pas que l'image n'est pas intéressante. Je dis que souvent, elle sert à meubler ou à combler et qu'on n'en a pas, nécessairement besoin. La parole, oui, bien sûr, toujours.
Donc une question me vient. Pour quelles raisons avez-vous réalisé plusieurs atlas sur les frontières et qu'est-ce qu'un atlas apporte de nouveau par rapport à un livre ordinaire ?
Dans un essai, la carte est un support explicatif du texte. Ça illustre une partie, en tout cas, du texte. Dans un atlas, c'est très exactement le contraire. Le texte est en support de la carte. L'atlas a un souci d'efficacité. Il faut qu'on comprenne rapidement. Et je dirais que de ce point de vue-là, parce que c'est visuel et parce que le sens visuel est le plus couramment utilisé, bref, bon. Et je pense que de ce point de vue-là, les atlas sont importants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'atlas. Quand j'étais petit, ou quand j'ai commencé ma thèse de doctorat en 93, il y avait assez peu d'atlas. Aujourd'hui, des éditeurs se spécialisent dans les atlas, et à peu près chaque éditeur ne publie plus que des romans, ou des essais, ou des dictionnaires, ou que sais-je encore, mais publie aussi des atlas. Comme souvent au Proche-Orient, est-ce que oui, est-ce que non. Bon. Donc ça, oui, c'est ça, je le ferai quand je serai moins paresseux.
Par la question incontournable dans notre lycée, donc traversons les frontières culinaires ensemble, quel est votre plat préféré ?
C'est évidemment la mousse au chocolat. Mais la mousse au chocolat noire, noire, j'aime le chocolat noir. Donc le cacao fort, quoi. Une mousse très épaisse, il n'y a rien de meilleur sorte.
Nous remercions Frédéric Ancel d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Voyager à travers le temps avec Secret d'Histoire.
Secret d'Histoire.
Et maintenant, un secret d'histoire, et attention, il s'en va en l'air sur les frontières.
Si de nos jours, la confiance règne entre la France et l'Espagne, au point même de partager des établissements attirants par leur prix cassé, il est important de revenir à la source pour comprendre comment est née cette entente qui n'a pas toujours existé. Embarquons alors pour un voyage dans le temps remontant au XVIIe siècle.
Nous sommes en 1635, lorsque la France de Louis XIII attaque l'Espagne des Habsbourg, qui est, à cette époque, le royaume le plus étendu et le plus puissant d'Europe. Débute alors une guerre meurtrière engendrant plus de 300 000 morts. Mais la France en ressort victorieuse et devient la première puissance européenne au détriment de l'Espagne. C'est une vingtaine d'années plus tard, en 1656, que se pose la question d'un traité de paix entre les deux pays. Le bras droit de Louis XIV, le cardinal Mazarin, entre alors en négociation avec son homologue espagnol, Luis de Haro, bras droit de Philippe IV.
Nous nous retrouvons en direct de l'île des Faisans, où les premiers ministres de France et d'Espagne se retrouvent pour négocier un traité de paix.
L'île des Faisans est un petit bout de terre de quelques mètres carrés au milieu de la rivière Bidasoa, qui est à la frontière exacte entre les deux pays.
Aujourd'hui, ce territoire est soumis à une garde alternée, puisqu'il est géré conjointement par les deux voisins. 6 mois chez l'un, 6 mois chez l'autre, pas de jaloux.
Cardinal Mazarin,
Louise de Haro,
vous êtes venus avec bien du monde.
En effet, n'oubliez pas que nous sommes toujours en conflit.
C'est juste, mais j'ose espérer que nous trouverons un accord pour céder nos différends au passé.
Nous sommes là pour cela. Commençons alors.
Après près de 3 ans de négociations, le traité est enfin signé le 7 novembre 1659 sur cette petite île franco-espagnole, convoquant ainsi les deux rois. Ce traité met fin à près de 25 ans de guerre et instaure la paix entre les deux voisins.
Le traité énonce alors l'arrivée au trône de l'infante espagnole, qui devient reine aux côtés de Louis XIV, mais également l'attribution du Roussillon et de l'Artois à la France, territoire cédé par l'Espagne. Nous retrouvons donc le roi Louis XIV et son premier ministre qui lui annonce l'heureuse nouvelle.
Votre Majesté, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer.
Dites-moi.
Il semblerait que nous ayons trouvé un accord avec notre voisin espagnol. Vous n'avez donc plus aucun souci à vous faire, nous avons fait la paix.
Développez, je vous prie.
Eh bien, vous le savez comme moi, rien de mieux qu'un heureux mariage pour sceller une amitié naissante. Je vous ai ainsi trouvé une épouse digne de ce nom. Il s'agit de cette jeune Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne.
Qu'entends-je ?
Votre Majesté, soyez raisonnable. Après avoir étudié toutes les solutions avec Monseigneur Louis de Haro, nous en avons conclu qu'il serait parfait de lier ainsi nos deux magnifiques contrées. Imaginez, grâce à ce mariage, plus de guerre, plus de violence, plus de mort, juste deux puissances main dans la main.
Est-elle belle ?
Bien plus encore.
Vous m'avez l'air de savoir ce que vous faites. Voilà qui me plaît. J'accepte.
Faites-moi confiance, vous ne serez point déçu.
Nous retrouvons maintenant la même situation du côté espagnol où Louis de Haro annonce la nouvelle à Marie-Thérèse d'Autriche. Il est nécessaire de préciser la touche comique de ce mariage. Les deux futurs mariés ont certes une langue et des coutumes différentes, mais ils sont pourtant cousins et pas si éloignés que ça.
Votre Altesse, nous avons conclu un accord avec le Royaume de France.
Voilà une heureuse nouvelle.
Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas la seule.
Que voulez-vous dire ? Arrêtez avec cet air mystérieux.
Eh bien voilà, vous êtes promise à Louis XIV de France pour un sublime mariage symbolisant la paix entre nos royaumes respectifs. N'est-ce pas fabuleux ?
Il semblerait que je n'ai nul autre choix, mais je dois reconnaître l'ingéniosité de cette entente. Merci mon cher, vous pouvez disposer.
Arrive enfin le mariage tant attendu. Il se déroule dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, plus précisément dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Il est néanmoins important de souligner que c'est précisément le jour de leur mariage que les futurs époux se rencontrent pour la première fois. Ajoutons à cela la symbolique de l'événement qui est organisé plus pour que règne la paix que pour unir les deux amants par un amour sincère et dévoué.
Cela n'empêche pas nos jeunes mariés de passer une nuit de noces torride dont on parle encore. Nous fêterons cette année le 363e anniversaire de ce mariage et à cette occasion, pourquoi ne pas revenir sur les traces de ce formidable événement en partant à la découverte de la ville de Saint-Jean-de-Luz, où leurs maisons respectives sont encore en état et visitables.
C'est donc avec vous que je vais passer le reste de ma vie ?
Il me semble, en effet ma chère, que nos royaumes attendent cette union en guise d'officialisation de la paix. Plusieurs intérêts communs nous ont donc amenés à nous rencontrer.
Pour la paix alors ?
Pour la paix.
Louis XIV étant désormais mature et marié, il peut prendre de pleine possession des pouvoirs qui lui sont conférés de façon à réaliser son devoir, régner sur le royaume de France.
Votre Majesté, le royaume étant passé, il est temps que vous preniez vos responsabilités et que vous régniez sur le royaume de France comme votre père et votre grand-père avant vous.
Encore une fois, vous avez raison, Mazarin. Qu'aurais-je fait sans vous ?
C'est ainsi que se conclut la réconciliation entre ces deux vastes pays. D'ennemis, ils sont parvenus à trouver un terrain d'entente, tout d'abord au cœur de leurs frontières communes, puis autour de l'organisation d'un mariage qui, bien que monté de toutes pièces, parvient à faire le bonheur de nos altesses. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Merci à Charlotte, Valentine, Lilou, Camille, Titouan et Juliette pour cette parenthèse historique.
Explorer la frontière russo-finlandaise avec la revue de presse.
Pour clore notre émission, voici la revue de presse du jour concoctée par Oscar, Titouan, Amandine, Eloi, Lily et Mayan. Lily, on parle des frontières. La politique finlandaise est un modèle de neutralité parfaite, comme le souligne l'historien Maurice Carès pour Géo. Cependant, ce principe est fortement remis en cause depuis une vingtaine d'années, notamment par l'invasion de la Crimée en 2014, puis, tout récemment, par l'invasion de l'Ukraine en février dernier.
Aujourd'hui, le conflit dure, tant les relations internationales et la Finlande prend parti. À l'automne 2021, qu'en est-il de la situation à la frontière russo-finlandaise ?
Pour aborder le sujet de cette frontière, Oscar, Titon et Eloi ont pu étudier 3 articles différents, 2 parus en novembre et 1 en octobre. Oscar, peux-tu nous en dire plus sur le conflit et les décisions prises par la Finlande ?
Bien sûr, Amandine. Donc plus de 30 ans après la guerre froide, le gouvernement finlandais a décidé le 21 octobre 2022
d'ériger une clôture à sa frontière avec la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par cette dernière. Cette décision a été prise en exprimant la volonté finlandaise de rentrer dans l'OTAN. Elle a donc une valeur symbolique. Cette barrière peut avoir des effets néfastes en alimentant le trafic d'êtres humains et en renforçant la stigmatisation de la population russe. La création de cette barrière est critiquée par Le Point et est comparée au rideau de fer.
Merci Oscar. Seulement, certains journaux exposent un avis différent concernant les enjeux de cette frontière, comme l'article de The Guardian que tu vas nous présenter, Titouan.
En effet, Amandine, le journal anglais a publié un article le 19 octobre 2022 témoignant de l'appréhension du gouvernement finlandais concernant une possible guerre hybride suite aux flux importants d'immigration depuis la Russie. Le journal partage cet avis et est donc pro-finlandais. Cette prise de parti fait ainsi pencher The Guardian vers une orientation politique de droite.
Et oui, en effet, les avis diffèrent entre les articles. Maintenant, Éloi, où en est la concrétisation du projet de la Finlande ?
Alors, dans un article publié un mois plus tard, comme nous le dit le Libération, un mur de 200 km pensé par la Finlande pour renforcer la sécurité a été donc pensé. La Finlande a imaginé ce projet suite à l'invasion russe en Ukraine, aussi à cause du nombre de migrants. Le nombre de migrants a donc été limité grâce aux gardes-frontières. Tolpanen, qui est donc une politicienne finlandaise et aussi représentante du Parti socialiste, dit que dans une situation extrême, les gardes-frontières seront chargés d'empêcher l'entrée en Finlande pour les immigrés russes.
Merci à vous de nous avoir éclairé sur le conflit frontalier entre la Russie et la Finlande.
Merci à nos camarades de première AGGSP, à notre professeur, Madame Valentin, et à Madame Deloum, sans lesquels l'émission n'aurait pu exister.
Nous en sortons enrichis de nouvelles compétences orales et écrites et en ayant découvert le monde de la radio.
Un simple dernier message, ouvrons nos frontières sociales et terrestres.
C'était la classe de première AGGSP, la géopo pour les nouveaux.